J'avais dit, c'est pas compliqué, à la rentrée tu trouves un grand marronnier, tu vas en dessous et tu trouveras un sujet sur le poids du cartable, sur Montessori, sur les cantines scolaires, peut-être même sur la première rentrée scolaire ou le transport. T'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut. Je suis arrivé un peu à la bourre, mais en fait j'ai trouvé bien mieux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Pire Reste à Venir, la matinale des radios de HDR et de Principe Actif. Ce matin, vous l'aurez compris, il y a une recette autour de la rentrée, il y aura de la bonne musique, il y aura du bon son, on ira faire un tour du côté du répondeur téléphonique, voir si vous nous en laissez un petit peu des messages, de la recette, tout un tas de choses. Mais nous parlerons, et je voulais dire rentrée, mais nous parlerons d'école inclusive plus précisément, parce que nous avons un invité avec qui nous échangerons. C'est parti, nous sommes là ensemble jusqu'à 9h, du bon son, de la bonne humeur, de la bonne musique et des bons plans. C'est Le Pire Reste à Venir.
Le Pire Reste à Venir.
Le Pire Reste à Venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le Pire Reste à Venir.
Le Pire Reste à Venir.
La matinale du matin qui va bien.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute, 99.1
HDR
et 102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Et je vous le disais, nous allons parler école inclusive. Nous sommes avec Michel Micart comme invité, qui est président de la page de l'heure, qui coordonne également le réseau école inclusive. Bonjour Michel, comment ça va? Commençons par ça.
Bonjour, écoutez, ça va très bien. Pleine forme pour commencer cette journée avec vous.
Eh ben c'est parfait. C'est parfait. Michel, en quelques mots, qu'est-ce que la page? Parce qu'en fait, on le dit comme ça, comme si tout le monde savait de quoi nous parlions. Qu'est-ce que la page de l'heure en particulier, et quelles en sont rapidement ses missions?
Alors la page, c'est l'association pour adultes et jeunes handicapés. Donc c'est un mouvement associatif qui a été créé il y a 60 ans en France. D'abord par des militants justement enseignants ça a été leur premier objectif, la place des enfants à l'école. Donc c'est vraiment
avec la particularité du handicap
la place des enfants en situation de handicap avec les autres dans l'école, c'était la première bataille des militants à Page il y a 60 ans qu'on continue aujourd'hui. Et au départ, il n'y avait pas la volonté de construire et de gérer des établissements médico-sociaux, mais devant, disons, à l'époque, la faiblesse des moyens mis en œuvre, la page s'est décidée à créer, à gérer des établissements pour montrer qu'on pouvait faire autrement pour l'accompagnement et l'accueil des personnes en situation de handicap. Ça, c'est la page au niveau national, qui est maintenant devenue une fédération à page, qui compte une association dans chaque département en France, dont la nôtre, dans l'heure, qui a été créée il y a une douzaine d'années. Et la particularité, c'est qu'il y a également des établissements à page dans le département de l'heure qui sont gérés par la fédération à page. Voilà.
Alors, on connaît, nous, là, sur Évreux, on connaît un peu plus celui de Saint-Sébastien-de-Morçon, on se le disait quand nous sommes accueillis ce matin. Nous, on connaît bien celui de Saint-Sébastien-de-Morçon, qui présente notamment, en dehors de la question de l'école, la question du travail, avec les AT, notamment, celui d'un établissement de travail adapté.
Absolument. Alors, c'est l'accompagnement par le travail. D'ailleurs, c'est maintenant la définition de ESAT, établissement et services d'accompagnement par le travail. Et effectivement, c'est un lieu où on montre que les personnes en situation de handicap ont des capacités, des compétences à mettre en œuvre. Et il y a une volonté également de formation des personnes en ESAT. Et l'idée et l'objectif, c'est de faire en sorte que celles et ceux qui le peuvent, qui le veulent, peuvent aller travailler, par exemple, en milieu ordinaire. Et donc, elles seront accompagnées également vers le milieu ordinaire.
Alors ça, c'est pour la partie APAJE. Tu es aussi coordinateur d'un réseau qui est celui du réseau de l'école, des écoles, ou de l'école inclusive, d'ailleurs, plus largement. Il y a beaucoup de partenaires qui interviennent dans cette question de l'école inclusive.
Oui. Alors, ça, c'est effectivement... l'APAJE a été engagée dans la bataille, on va dire. Oui, c'est une lutte quand même pour réussir l'école inclusive. Mais dans le département de l'Eure, ce qui est bien, c'est que nous rassemblons, quand je dis nous, ce sont les associations qui agissent dans le domaine du handicap. Nous partageons les mêmes objectifs et on a réussi à créer ensemble ce réseau École Inclusive 27. Et donc maintenant, il y a un certain nombre d'associations et élargies à des personnalités, des militants qui veulent apporter leur pierre aussi à cette action pour l'école inclusive. Et puis il y a également deux collectivités, donc Évreux avec la coordinatrice des actions au service des personnes en situation de handicap qui est dans le réseau, et puis
c'est Nathalie, c'est ça
Nathalie, hein,
on connaît bien Janice, hein.
Et puis l'adjointe au maire de Saint-Sébastien-de-Morsan, Véronique Lamy, qui travaille avec nous également.
On aura l'occasion d'y revenir sur ce qu'est l'école inclusive, quels en sont les enjeux, à quoi ça correspond et pourquoi, tout simplement, dans un instant. Mais on commence par notre toute première pause musicale. Alors, j'ai choisi Feyen Yotef. C'est particulier, on vous invite à découvrir. Feven Youssef.
Oui, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like a mauvaise mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Alors, aujourd'hui, vous nous avez fait des belles. J'avais au moins 5 ou 6 messages sur le répondeur de la radio, mais tout le monde a commencé son message avec « Non, je voudrais pas que ça passe à l'antenne ». Alors, on va respecter, bien entendu, votre demande, on ne le passera pas à l'antenne, mais quasiment tous ces messages-là auraient mérité d'être à l'antenne. On nous demandait des références sur des émissions, on nous demandait des références sur ce qu'on a diffusé, on nous demandait des infos sur un truc qu'on avait entendu. Vous pouvez nous les laisser en live pour qu'on les passe à l'antenne, bien entendu. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Nous, ça nous fait chaud au cœur le matin, quand on anime ces émissions, d'avoir votre voix, de vos nouvelles, des informations sur ce qui se passe aux alentours. Je vous l'avais dit, moi j'adore la poésie. Vous pourriez nous laisser un petit peu de poésie aussi sur notre répondeur. En tout cas, c'est votre zone d'expression radiophonique à vous. Laissez des messages, nous les diffusons le matin aux alentours de 8h15 et arrêtez de commencer vos messages à « Non, moi je veux pas passer à l'antenne ». Dites-nous que vous voulez passer à l'antenne, on les enverra tout simplement. En tout cas, 02 32 62 57 32, vous pouvez nous laisser vos messages et ils seront diffusés le matin aux alentours de 8h15. Nous sommes toujours avec Michel Micars, qui est président de la page de l'heure, qui est aussi coordinateur du réseau École Inclusive. On a abordé rapidement ces questions. L'école inclusive, c'est comment les enfants en situation de handicap font leur scolarité dans des classes ordinaires. On est venu sur ce mot ordinaire. Moi, j'aime beaucoup parce que quand on parle d'inclusion, souvent, on a un flottement sur cette notion. C'est, il y a les enfants normaux, entre guillemets, et du coup, que fait-on des enfants qui rentreraient pas dans cette case de normes? Et moi, j'aime bien ce mot de milieu ordinaire, d'enfant ordinaire, et ça veut dire beaucoup. Je ne sais pas si on peut revenir un petit peu sur cette notion. Nous, on l'utilise beaucoup à la radio, et c'est vrai qu'on l'a emprunté au milieu du handicap, cette notion de ordinaire, de milieu ordinaire.
Ben oui, parce que c'est bien, parce que un enfant en situation de handicap est un enfant, comme tous les enfants, voilà. Mais forcément, il a... Et comme nous tous d'ailleurs, des différences. Nous sommes tous différents. Et c'est ces différences-là qu'il faut prendre en compte pour qu'ils puissent être avec les autres, partager l'école avec les autres. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand on parle de l'école ordinaire, c'est ça. Et que c'est cette école ordinaire qui doit s'adapter aux enfants qu'elle accueille.
Voilà. Alors justement, quand on parle d'enfants en situation de handicap et d'inclusion dans l'école ordinaire, de quoi parlons-nous aussi quand on parle de handicap? Il y a des choses assez évidentes, on sort là tout juste des Jeux paralympiques, donc la question du handicap a été mise sur le devant de la scène. Bien souvent, on était sur le handicap moteur, qui lui est assez évident, qui maintenant est bien appréhendé, j'ai l'impression, par tout le monde. Mais il n'y a pas que ce type de handicap, il y a aussi le handicap psychique, cognitif, qui existe, tout simplement. De quoi parlons-nous quand on parle de handicap dans l'école inclusive?
Alors, les enfants en situation de handicap sont accueillis dans des structures, depuis des années, qu'on appelait les structures spécialisées. Et effectivement, spécialisées souvent selon le type de handicap. Comme vous dites, effectivement, on a en tête le handicap moteur, le handicap physique. On voit le fauteuil.
Mais il est évident.
Mais celui-là est évident. Et puis d'ailleurs, le logo handicap, si tout le monde le voit, c'est un fauteuil. Or, la majorité des cas, la majorité des personnes en situation de handicap, c'est du handicap invisible. Et d'ailleurs, c'est bien pris en compte à Évreux, ça, puisque il y a eu des panneaux qui ont été apposés et qui marquaient que, effectivement, les places de stationnement étaient pour tous les types de handicap, y compris les handicaps invisibles. Et ça, c'est important. Et donc, les élèves qui sont accueillis à l'école, arrivent avec leur handicap. Et effectivement, c'est là toute la difficulté pour l'école. Et il faut pas gommer, justement, la difficulté ou les difficultés qui sont rencontrées par l'école, et je précise, par les enseignants et les personnels de l'école. Et donc ça, c'est ce à quoi il faut répondre pour que l'accompagnement, l'accueil des élèves en situation de handicap, dans leur diversité de handicap, soit accueilli le mieux possible. Voilà, c'est ça, dans l'intérêt de l'enfant et de son parcours scolaire.
Aujourd'hui, l'école avance. Comment est-ce qu'elle intègre finalement cette question de handicap ? Est-ce que au sein de la formation des enseignants, on a des billes ? Est-ce que l'école en elle-même est préparée à être confrontée à la question du handicap ?
Alors oui, nous sommes en 2024. On fait cette émission là. On parle de l'école inclusive et de ses problèmes. 2005. La loi du 11 février 2005 posait l'obligation de la scolarisation et de l'éducation des enfants en situation de handicap. 2013, il y a une loi qui parle de l'inclusion des élèves en situation de handicap. 2019, arrive une loi qui crée le service public de l'école inclusive. Mais depuis 2006, il y avait déjà des textes de l'ONU qui le disaient, qu'il fallait scolariser et accepter à l'école tous les enfants en situation de handicap. C'est vous dire la lenteur avec laquelle se mettent en place les dispositifs pour accueillir les enfants en situation de handicap à l'école de tous.
Alors, il y a la question de la loi. Alors, c'est déjà l'avancée, la loi, hein, mais il y a la mise en œuvre. Et sur la loi de 2005, régulièrement, elle est venue être confrontée à la réalité de la difficulté de la mise en œuvre, en fait. Parce qu'il suffit pas de promulguer une loi et d'en faire les décrets d'application pour que les enseignants soient prêts, formés, que les locaux soient adaptés et que le public soit réceptif et que les places soient disponibles.
Ben voilà.
C'est plus compliqué que ça, en fait.
Ouais. Ben oui, parce que une loi est votée. Alors, les décrets sortent quelquefois avec du retard par rapport au vote de la loi. Et puis, il faut qu'après, les moyens suivent. Voilà. Et puis, l'école, c'est une grande machine. Hein, on va dire, il y a eu des termes sur le mammouth, tout ça.
Oui.
Je passe. Mais effectivement, c'est énorme. Et donc, transformer l'éducation nationale pour accueillir, accompagner tous les élèves qui sont en situation de handicap, pour qu'ils soient considérés comme tous les élèves, eh bien, ça prend du temps. Mais si on sait que, justement, ça va prendre du temps, il faut mettre tous les moyens pour que ça aille le plus vite possible. Et c'est ce à quoi on a été confrontés. Enfin, quand je dis nous, c'est les associations, notamment représentant les personnes en situation de handicap, comme la PAGE et d'autres, c'est que c'est une bataille de tous les jours et une bataille qui continue, qui est toujours actuelle. Il y a eu, comme vous le dites, il y a eu des avancées, parce que les mobilisations ont permis quand même la prise en compte de ce qu'on disait, et il y a eu des avancées, des dispositifs ont été créés, des emplois ont été créés pour accueillir et accompagner les enfants en situation de handicap.
Mais des cursus de formation aussi, hein. Il y a des cursus complémentaires de formation qui sont proposés. Nous, on a eu l'occasion, c'est le centre Info Autisme sur Rouen notamment, qui propose des actions de formation ou des petits éléments complémentaires aussi. Enfin, ça, c'est parce que ça passe par ça aussi.
Oui. Mais ce qu'on souhaite, nous, c'est que véritablement, un enfant en situation de handicap soit considéré comme n'importe quel élève dès lors qu'il rentre à l'école. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour qu'il ait un vrai parcours scolaire. Ça veut dire quoi ? Un parcours scolaire, c'est y compris vers la formation professionnelle, une orientation professionnelle. Et on parlait des ESAT tout à l'heure, et on parlait des difficultés qu'ont les personnes en situation de handicap de trouver de l'emploi. C'est que beaucoup n'ont pas suffisamment eu accès à la formation professionnelle, à la certification de leurs compétences. C'est l'école qui doit être au cœur de tout ça. Et là, il y a encore énormément de travail.
Quand on parle d'accueil et d'école inclusive, on est sur une grosse demande, on est sur des cas très particuliers, anecdotiques, on est sur quoi un petit peu ? Parce que ça représente quoi en fait finalement cette inclusion des personnes en situation de handicap ?
Alors, vous avez raison de poser la question des chiffres. On sait qu'actuellement, il y a à peu près 3000 élèves dans le département de l'Eure qui sont accueillis dans les ULIS. hein, les unités localisées qui sont créées dans les établissements scolaires.
Qui couvrent d'ailleurs l'école primaire et l'école du collège.
Oui, tout à fait, vous avez raison. École primaire, collège et lycée aussi.
Et lycée aussi, hein, d'accord.
Et lycée aussi. Bon, donc ça a été des dispositifs qui ont été créés, et c'est positif. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est positif, mais pas suffisant. Et donc, au niveau des chiffres, quand on demande des chiffres précis, on les a pas. Parce qu'il y a les chiffres de l'ARS, l'Agence régionale de santé, et il y a les chiffres que peut avoir la MDPH, et il y a des chiffres qui sont ceux de l'éducation nationale. Comme on n'a pas forcément les mêmes chiffres selon les origines, ça montre en tous les cas qu'on n'a pas mis en place un observatoire, un dispositif qui permette de savoir véritablement combien il y a d'enfants en situation de handicap.
Sur les handicaps cognitifs ou psychiques, en fait, il y a aussi la détection au cours de la scolarité. C'est-à-dire qu'un enfant qui est rentré comme un enfant, on va dire, ordinaire, peut, au bout d'un moment, être diagnostiqué, présentant un handicap. Du coup, il aurait été un enfant plus difficile en amont, c'est-à-dire pas repéré comme entrant dans l'adaptation scolaire. Ça fait partie du cursus aussi. Peut-être que la détection fait partie des enjeux.
Alors oui, ça vous avez tout à fait raison. Les progrès qui ont été enregistrés dans ce domaine-là d'ailleurs, sur le diagnostic ou le dépistage. Bon, il y a eu des progrès, ça c'est vrai, par rapport à ce que j'ai pu connaître comme parent d'enfants en situation de handicap. Mais, on est confronté dans l'éducation nationale à la faiblesse, si on peut dire faiblesse, oui, de la médecine scolaire, parce que c'est même pire que ça, c'est que il y en a moins qu'il n'y en a eu. Donc, en termes de médecins scolaires, en termes d'infirmières scolaires, et puis, il y avait des dispositifs qui marchaient bien dans l'école primaire, c'était ce qu'on appelait les RAZ, les réseaux avec des personnels spécialisés qui pouvaient intervenir auprès des écoles et des enseignants, des enfants et des enseignants, pour les aider, et les moyens ont été diminués au fil des années. Donc, oui, on peut, au cours de la scolarité, découvrir que des enfants rencontrent des difficultés, des troubles qui relèvent du handicap, comme les enfants dyslexiques, par exemple. Et c'est un secteur, on va dire, hein, où, effectivement, il y a eu des ratés, où on considérait que l'enfant ne travaillait pas assez, était un peu paresseux, etc., alors qu'il était dyslexique. Et quand on connaît ce que c'est qu'un enfant dyslexique, tous les efforts qu'il doit faire pour suivre, on peut comprendre qu'il soit fatigué si on n'a pas adapté l'enseignement à ses difficultés.
Ça, beaucoup d'enfants, du coup, au cours de leur scolarité, ont changé de statut. Ils sont passés de chiants en situation de handicap. Ils sont passés de feignants avec des difficultés particulières. Oui. Non, mais ça change tout dans la perception de l'enfant et dans sa propre perception aussi à cet enfant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on lui a dit non, t'es pas juste chiant, mais tu es avec des difficultés. Enfin, tu as des difficultés. Non, tu n'es pas feignant ou tu n'es pas un bon à rien, mais tu as des difficultés à tel ou tel endroit. Ça change aussi sa propre perception à l'enfant. Enfin, c'est tout l'intérêt d'adapter en fait à l'enfant.
Bah oui, parce que d'abord, c'est ce qu'on appelle la valorisation de l'image de soi pour la réussite scolaire, c'est extrêmement important de savoir qu'on a des compétences, qu'on peut faire et que si on nous accompagne bien, on peut réussir. C'est énorme, tout à fait.
Et ça change tout, effectivement. Ouais. Alors, aussi bien dans la perception des parents, de l'enseignant, mais dans la perception de l'enfant lui-même. Cette question de l'école, enfin de l'inclusion scolaire, on le disait, ça peut concerner pas mal d'enfants tout au long de la scolarité. Ça va de l'école maternelle jusqu'au lycée, avec cette obligation de par la loi de 2005 de proposer une scolarité aux enfants. Aujourd'hui, cette scolarité, cette inclusion scolaire peut se faire dans toutes les écoles, dans tous les établissements scolaires. Où il y a quand même des établissements plus ou moins réceptifs à cette inclusion. Je pense notamment à l'école Jean Moulin à Évreux, dont on a eu l'occasion d'accueillir le directeur et une des enseignantes qui intervient sur ces questions-là. Avec nous, la sensation qu'ils étaient un peu plus avancés ou en tout cas un peu plus encadrés dans cet accueil d'enfants en situation de handicap. Voilà, est-ce que ça se fait dans toutes les écoles ou finalement il y a des secteurs plus ou moins préférentiels?
Alors, je vous dirais que la loi s'impose à tous. et que être l'école de la République, c'est toutes les écoles. Hein. Quand je dis école, c'est école, collège, lycée. D'ailleurs, ça va jusqu'à l'université, hein, parce que effectivement, il y a des élèves en situation de handicap jusqu'au lycée qui peuvent aller jusqu'à l'université. Donc, il y a aussi des étudiants en situation de handicap. Mais par contre, ce que vous dites, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont créés dans certains établissements scolaires, pas dans d'autres, mais c'est assez logique d'ailleurs, hein, puisqu'on ne peut pas peut-être créer des dispositifs dans toutes les écoles. Par contre, ce qui doit être fait, c'est que chaque école soit en mesure de répondre aux besoins des élèves en situation de handicap qui y sont scolarisés. Et ça, c'est à l'école de s'organiser, de s'adapter. Voilà, c'est pas à l'élève de s'adapter à l'école, c'est à l'école de s'adapter à l'élève. C'est tout l'enjeu de cette école inclusive.
On y reviendra dans un instant à cette école inclusive, parce qu'on n'en a pas fini. On pourra en parler pendant plusieurs heures d'ailleurs, hein, de ces questions d'inclusivité dans l'école. On reviendra également sur le colloque départemental qui est organisé mercredi 25 septembre dans l'hôtel du département, dans la salle de conférence de l'hôtel du département. On y reviendra bien entendu. On fait une pause musicale et puis on va du côté de Gizakoum juste après pour prendre des nouvelles de Nathalie Gobert. Vous verrez pourquoi dans quelques instants. Je vous propose un morceau de Rain. Vous savez, cet artiste que nous suivons, ce rappeur britannique, Rain, avec le titre Bittersweet.
I've got dirt on my Reeboks from staying up all night. I spent my last £10 on this pack of Marlboro Lights. I phoned up Stevie, I said, gee, you alright? He said, it's 6 in the morning, brother, get some shut-eye. I feel a sense of well-being this time in the morning. Wear my heart out of my hoodie while the city is snoring. Drunks falling off the sidewalks, get issued a warning. Distant sirens, they crescendo like a symphony calling. This is the Britain I know, this is the Britain I love. There's poetry inside this city if you listen enough. Working class casualties out on the street sleep rough, while a mother with her baby takes a pram to the pub. And while she's knocking them down, the cost of living goes up. I can't relate to politicians with their head in the mud. I resonate with messy Fridays with my boy smoking bud. We do our bit to numb the struggle, as below so above, as above so below. Here in this city we glow. I blow a smoke ring up to heaven and it makes a halo. And then the clock strikes 7, guess it's time to head home. My companion is the city, so I'm never alone. Stepping in and out of gaps of the pavement cracks. If I go to sleep now, that's an anti-climax. People rise for work and the sun mirrors that. A perfect juxtaposition for those out on the lash. Bear with me, it's beautiful, I think it's irrefutable. There's beauty in the contradicting Britain, indisputable. Junkie in the cubicle, his old spoon is usable. His mother's in a black suit, crying at a funeral. 9 to 5 crucible, this route is not commutable. A kid falls off the tracks, then he serves a stretch at juvenile. Libby's at the Dolies, but her disposition's humorful. While Davey's at the bookies and his mates call him delusional. Britain, drink it down and moan about the weather when the sun starts shining. Feel the factor 10 tremor. Boys, we'll be in it together till the fish start flying like the Conor McGregor. And then he's out. I think he took it too far. I think the boy saw red. I think he hit him too hard. Now he's face down on the pavement with a face full of tar. Mad how small altercations can define who we are. That's my cue. I guess it's time to head home. Bittersweet how my high found its way to below. And I've said it once before, as above so below. Living on the streets of Britain, you just go with the flow. But I'm done, I'm out for the night. As the sun paints the pavements, I'll turn out the light. White noise on the radio to quiet my mind. I always was an overthinker, just the way I'm designed. Britain, drink it down and moan about the weather. When it's all said and done, we'll be in it all together. Boys, we'll be like it forever. It's a bittersweet symphony with birds of a feather. Cause it's a bittersweet symphony that's life. Trying to make ends meet, you're a slave to money, then you die.
Rain avec le titre Bitter Sweet.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Sur HDR et Principatif.
Et nous poursuivons et nous avons Nathalie Gobert qui est la responsable du site Gisacum. Vous savez, ce site gallo-romain à quelques encablures d'Evreux. Bonjour Nathalie.
Bonjour, responsable des animations du site de Gisacum.
Pardon,
c'est déjà bien.
C'est déjà plutôt pas mal, tout à fait. Mais oui, mais tu nous parles tellement de ce site régulièrement avec tant de passion que bah oui, mais c'est de l'animation aussi de nous en parler. Où en es-tu d'ailleurs dans ta matinée? Est-ce que tu es devant ton bol de cornflakes? Est-ce que tu as déjà fini le café depuis longtemps? Est-ce que on te réveille à 8h30?
Où en es-tu
dans ta journée?
Non, là, on est sur le pont, en fait. Hein. Marie et moi, notamment, là, ça y est, c'est parti. La journée, le montage de l'événement du week-end est en cours. Les partenaires qui viennent montrer les installations sont là. Donc, pour nous, le petit café, c'est fini. La journée a bien commencé.
Alors, justement, tu l'évoquais, c'est un événement. C'est les lives à Gisacum ce week-end. Ouais. L'occasion, alors, c'est un rendez-vous régulier. Ça fait maintenant plusieurs années que, sur le mois de septembre, Gisacum nous propose des lives. Sur ce site qui est magnifique. En quelques mots, ce site, c'est l'occasion de le faire vivre aussi différemment. En quelques mots, pour les derniers qui ne sauraient pas de quoi on parle, de quoi parlons-nous quand on parle des termes de Gisacum?
Donc Gisacum, c'était une ville gallo-romaine à quelques kilomètres d'Evreux. Le village actuel, c'est le Vieil Evreux. Et les termes, c'est un des monuments de cette grande agglomération, grande ville, qui est toujours en cours de fouille, où les archéologues se préoccupent notamment du temple depuis quelques années. Les termes, c'est une très ancienne fouille qui date du 19e siècle, qui a été reprise il y a 20 ans à peu près. Et aujourd'hui, c'est un joli jardin qui a été développé autour pour le mettre en valeur et pour permettre une visite et une découverte agréable au plein cœur de la nature.
Alors, on le rappelle, c'est ouvert au public sur toute la saison du printemps à l'automne, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais,
l'occasion
ça.
De s'y promener pour juste faire une balade, pour visiter les thermes, pour aller y faire un pique-nique ou une balade, peu importe. En tout cas, c'est un espace que nous, en tant qu'habitants, on peut aller visiter régulièrement quoi, et autant qu'on veut.
Complètement, parce que l'accès est gratuit. Dans le jardin, il est même complètement libre, en fait. Après, ça nous fait plaisir si les visiteurs passent par le musée, le centre d'interprétation, au passage, pour voir les collègues, prendre un peu de documentation, venir voir les vitrines, la vitrine d'actu qui change régulièrement, puisque pour bien comprendre Gisacum, pour bien comprendre les termes, on a une vidéo 3D qui tourne dans le centre d'interprétation. Donc, c'est un petit musée où il y a des objets trouvés en fouille, des maquettes, vidéo 3D, qui est aussi d'accès libre et gratuit. Donc, franchement, il ne faut pas hésiter. Là, en tout cas, jusqu'au 15 novembre, on est ouvert tous les jours.
Voilà. Et puis, comme on le dit régulièrement avec toi, on prend des nouvelles des puits. Parce qu'en fait, ça, c'est la fameuse, c'est la fameuse blague permanente.
Oui.
C'est, en fait, vous avez des puits, vous trouvez de nouveaux puits, vous creusez des puits, vous êtes toujours sur du puits, en fait, à Gisacum.
Ah oui, là, ça fait quelques années que les collègues sont fondus du trou. Mais n'en voit toujours pas le bout, en fait. Donc, on s'était vu au printemps, il sait. On devait finir la fouille d'un des puits. Et en fait, non, toujours pas.
Je le savais. Je n'y croyais pas un seul instant, Nathalie. Hein. Quand tu disais que ça allait se finir, je n'y croyais absolument pas. Ça fait des années que tu nous fais le coup en disant non, mais là, on va arriver au fond du puits. Et à chaque fois, soit vous trouvez que le puits va plus loin, soit vous trouvez un nouveau puits.
Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est le même, mais celui-ci, il est bien plus profond que les autres. Les blocs sculptés qui en sont sortis sont, comme toujours, magnifiques. Donc, des décors de l'ancien temple qui ont été jetés dans ces puits. On a notamment une Diane chasseresse avec son arc superbe, un cheval, des morceaux, voilà, de fragments de personnages. C'est très chouette et ça vient compléter tout ce qui a été découvert les années précédentes. Donc plus ça va, plus le puzzle. Il va falloir remonter tout ça pour avoir une idée des élévations, une vidéo 3D qui sortira dès que tout ça sera bien fini. Mais oui, encore une campagne très riche.
Voilà, parce qu'on en rigole, mais en fait, dans ces puits ont été jetés finalement tous les éléments de décoration, tous les éléments qui constituaient les temples autour de la palestre, c'est ça ?
En fait, le temple, il était à plus de 500 mètres hein, des terres. On est sur un monument différent. Et le temple, il a été démonté très certainement pour récupérer des pierres, des matériaux à la fin du 3e siècle, comme les thermes d'ailleurs, ou le théâtre. Hein. Les monuments antiques sont récupérés à la fin de l'Antiquité. Mais avant de pouvoir récupérer des pierres, il a fallu, sur le temple qui est énorme et gigantesque, il a fallu démonter le fronton, les colonnades. Et du coup, comme il y avait ces grands puits qu'on connaît pas encore très bien, on sait pas très bien leur fonctionnement. Mais ce qui est sûr, c'est que on a d'énormes cavités. Et si on les remplit là, tous ces blocs ne nous gênent plus à cette époque-là. Donc en fait, c'est intéressant de voir que ce qu'on découvre, nous, avec émerveillement, à un moment donné a été jeté, parce que c'est pas ça qui les intéressait. Hein. C'était les moellons, c'était les blocs pas décorés, justement, ceux qu'on allait pouvoir retailler pour aller construire autre chose ailleurs. Voilà, c'est ça qui s'est passé, on va dire, il y a quelques siècles et qu'on redécouvre maintenant.
C'était les gravats du 3e siècle, en fait, qu'on est en train de sortir.
Ouais, exactement. Et on pourra découvrir le temple en visite guidée la semaine prochaine. Je fais une petite parenthèse, parce que cette année, on a scindé les lives à Gizakoum, les concerts qui ont lieu là ce samedi, des journées du patrimoine qui ont lieu la semaine prochaine. Et donc c'est la semaine prochaine qu'on peut venir pour l'aspect archéo, découverte du temple. Donc voilà, il y a deux sorties à faire en peu de temps à Gizakoum. Si on connaît pas encore le lieu, ça peut être chouette.
Et ben voilà, justement ce vendredi, c'est l'escope Kaboché Marla Wallace et puis du break que nous retrouverons sur ce site. C'est faire le pont entre l'histoire et le contemporain. Et aujourd'hui, finalement.
Oui, exactement. En fait, Gizakoum, c'était une ville gallo-romaine il y a 2000 ans, mais c'est un lieu de vie aujourd'hui, en fait, où on invite tout le monde à venir profiter du lieu et faire un lien avec aujourd'hui, et notamment par le break, puisque c'était une discipline olympique cette année, discipline sportive reconnue, et qui sera installée à Gizakoum, au milieu de la palestre, qui était l'endroit où on faisait du sport dans l'Antiquité. Donc là, la boucle est bouclée.
Nous dis pas que t'as remonté des blocs avec des breakers sur les frontons des temples.
Hein. Non.
Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est le rendez-vous est pris vendredi. Les premiers concerts, les premières animations, parce que c'est les breakers qui ouvrent la journée. C'est à partir de 16h30, mais on peut bien entendu venir se promener sur le site bien avant.
Ouais, alors c'est 16h samedi, hein, j'y sais, 16h, vendredi.
Samedi
14. Ouais. le site est ouvert à partir de 13h30. On sera encore en train de signaler un petit peu l'accueil, mais effectivement, le site est ouvert tous les jours à partir de 13h30. Donc on peut arriver avant 16h, avant la démo de break, qui introduit ensuite les trois concerts qui vont enchaîner. Mais pas de souci pour arriver plus tôt, se promener. En plus, normalement, il fait beau ce week-end, donc il faut venir flâner ou visiter le musée éventuellement.
Tout à fait. Et puis alors, c'est bien entendu gratuit, je le reprécise, parce qu'il y a beau avoir trois concerts plus du break, eh bien, c'est totalement gratuit sur cet événement, samedi 14, bien entendu.
Oui, jusqu'à 21h avec de quoi se restaurer aussi sur place, hein. À boire, à manger, donc on peut vraiment passer l'après-midi, faire le goûter avec les enfants, il y aura des glaces, des pâtisseries, et après pour la partie soirée, pas de soucis, des food trucks pour se restaurer, donc 16h-21h, vous pouvez prévoir toute votre fin de journée à Gizakoum.
Voilà, les breakers, Marla Wallace, Kaboché et les scopes, c'est la programmation de ce samedi à Gizakoum. Merci beaucoup Nathalie d'avoir échangé avec nous ce matin. Donc tu disais que tu étais sur l'installation des tentes, c'est quoi le programme de la fin de matinée là du coup?
Alors, tente, parquet, et puis commencer à préparer les parkings, parce qu'on étend le public en nombre, et donc on va augmenter la capacité d'accueil des parkings. Donc on se prépare à accueillir correctement le public. Donc les prairies deviennent des parkings, et on s'occupe de ça aujourd'hui.
Très bien, merci beaucoup Nathalie, et puis on se dit à samedi alors.
Oui, à samedi.
À samedi, Nathalie, au revoir. Nous, on part justement écouter un petit peu un extrait de cette programmation. C'est Caboché que je vous ai proposé. C'est un ovni. Je vous laisse découvrir, je ne peux pas définir.
We don't give up, we move from inna the lobby to now. She's right with the now. She sound like una na 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 una na 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 una na 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 una na. We don't give up, we move from inna the lobby to now. She's right with the now. She sound like una na 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 una na. So hey, can you help me real quick? Wait, I think the sink is broken.
Caboché que vous retrouverez samedi 16, ce samedi, sur le site de Gizakoum à l'occasion des lives à Gizakoum.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Et nous sommes toujours en direct en live avec Michel Mickart, qui est président de la page de l'heure et qui est aussi coordinateur du réseau École Inclusive. Nous avons parlé inclusion scolaire, quels en étaient les enjeux et le pourquoi. Enfin, le pourquoi, déjà, c'est la loi. Appréhender et bien intégrer finalement les jeunes en situation de handicap dans le parcours scolaire. On a évoqué du point de vue des enseignants, on l'a évoqué du point de vue de ces élèves en situation de handicap, mais finalement ils sont confrontés également à des camarades du milieu plus ordinaire et finalement comment c'est appréhendé avec les camarades, comment, quels sont les avantages, les enjeux aussi finalement de fréquenter l'école ordinaire quand on est un élève en situation de handicap, Michel.
Quand on est un élève en situation de handicap et qu'on est scolarisé avec les autres enfants, on se considère comme tous les autres enfants. Ça, c'est le premier principe. Hein. Et plus on a ces rencontres entre enfants en situation de handicap et les enfants qui ne sont pas en situation de handicap, plus il devient tout à fait, ordinaire, normal, de vivre ensemble sans avoir un œil interrogateur sur la personne qu'on rencontre. C'est un camarade, c'est une camarade comme les autres. Il y a une différence, mais voilà. C'est quelque chose à laquelle on doit être attentif. Par exemple, quand on est dans une école maternelle, c'est entre enfants, petits-enfants, maternelle, Il n'y a pas de problème. Les élèves qui sont en situation de handicap et puis les autres, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on peut grandir, il peut y avoir, notamment quand on s'affirme au niveau de l'adolescence, les différences, ça peut être vécu autrement. Et c'est pour ça qu'il y a des actions qui sont menées dans les écoles pour sensibiliser les enfants, les jeunes, au handicap et comprendre aussi les difficultés que rencontrent leurs camarades, parce que ça peut être aussi l'entraide entre enfants, entre jeunes, dans une classe. Et ce qui fait qu'on fait des élèves, des jeunes qui ne sont pas en situation de handicap, des acteurs de l'accompagnement, en quelque sorte, et ça facilite quand même la vie de tout le monde.
C'est aussi, parce que appréhender une personne en situation de handicap peut être particulier aussi, c'est comment je me positionne, ça vient percuter mes repères quand je suis même adulte, hein, pour le coup, ordinaire. Comment finalement, face à la personne en situation de handicap, je me positionne, comment est-ce que finalement je peux même apporter mon aide, mais comment j'interviens finalement, ça peut être, enfin, ça s'apprend en fait, tout simplement, quand on est une personne ordinaire, comment j'échange avec cette personne en situation de handicap, ça s'apprend. Et puis, un handicap, c'est pas le handicap, ce sont les handicaps. Parce qu'il y a autant de façons d'être en situation de handicap qu'il y a de personnes.
Oui, absolument. Et cette question est d'autant plus délicate lorsqu'on parle des handicaps invisibles. Voilà, parce que on va trouver que la façon dont la personne parle, la façon dont la personne réfléchit, le temps qu'elle met pour répondre, son comportement, sa réaction, ses émotions,
ton, éventuellement,
le ton, etc. Finalement, peut percuter quelquefois si on n'a pas la connaissance. Et c'est très important justement de travailler sur la connaissance du handicap dans la population en général, mais chez les jeunes et dans les écoles en particulier. Ça, c'est une des actions aussi que mènent les associations, mais aussi des structures comme notamment à Évreux, puisque la page est engagée également dans le Grenelle du handicap à Évreux.
Et donc c'est finalement, plus on communiquera, plus on échangera sur ces actions, sur le fait que le milieu du handicap soit intégré au milieu plus ordinaire, finalement plus on avancera dans ce sens-là, plus finalement nous appréhenderons la meilleure des manières les personnes en situation de handicap.
Complètement.
Et dans le milieu scolaire, en particulier, parce que c'est ça qui nous occupe, parce que finalement, on discute aujourd'hui, on a beaucoup brossé le tableau, beaucoup échangé sur ces questions de handicap, parce qu'en fait, mercredi 25 septembre, à l'hôtel du département, il y a un colloque autour de l'école inclusive, avec des intervenants, des gens qui vont échanger, j'imagine que les professionnels vont être présents pour pouvoir échanger, mais c'est ouvert aussi à tout le monde.
Oui, ce colloque est ouvert à tout le monde. Alors, on n'a pas choisi d'ailleurs le terme de l'école inclusive, on a choisi un thème qui parle plus fort, c'est l'école pour tous et un droit. Voilà, l'école pour tous est un droit. On rappelait les lois qui ont été votées, etc. Et donc, à partir du moment où c'est un droit, il faut faire respecter ce droit. Et l'école pour tous, voilà, c'est ce qu'on vient de dire, hein, les élèves en situation de handicap avec tous les autres, etc. Et pas simplement être avec les autres, parce que il ne s'agit pas d'accueillir les enfants en situation de handicap à l'école. Il s'agit de faire en sorte qu'on les considère vraiment comme des élèves, c'est-à-dire dans des situations d'apprentissage. Et qu'il y ait un parcours scolaire, une continuité dans le parcours, et que on s'assure qu'il y ait, pourquoi pas, une formation professionnelle, un débouché, un accompagnement, comme tout élève, qu'il y ait un véritable projet scolaire pour l'élève.
Alors du coup, là sur le colloque, il y aura des échanges autour de témoignages. J'ai vu qu'il y avait une commune Thuy-sur-Loison qui est prise en exemple, en tout cas, qui est peut-être un peu plus au point. En quoi cette commune est un peu plus au point?
Ah oui. Alors cette commune est au point d'abord parce que il y a la volonté du maire de la commune de se mobiliser pour que l'école soit inclusive, véritablement, et accessible aux enfants en situation de handicap. Et puis, la rencontre avec une association, Préhendis 276, qui est sur le secteur, extrêmement active, très très mobilisée, et la rencontre justement de ces volontés, eh bien, on imagine, on crée quelque chose qui peut aller au-delà, d'ailleurs, de ce qui existe d'une façon institutionnelle. Donc, ils ont imaginé cette classe flexible. C'est une autre façon de fonctionner, de l'école. Et ça, c'est une recherche, en fait, qui a été faite, et dont ils vont parler, ils vont la présenter.
En quelques mots, c'est quoi une classe flexible? Parce que je vois pas du tout, pour le coup.
Alors, la classe flexible, en fait, c'est que on casse un peu, le fonctionnement habituel d'une classe. Voilà, tous les repères qui sont dans une classe, j'allais dire, lambda, on va créer des moments et des façons de fonctionner qui n'existent pas encore. Voilà. Je peux pas en dire plus.
Non, c'est bien. C'est comme quand on présente un film. Là, on a fait le teaser et ça donne envie d'aller voir n'importe
quoi.
Voilà.
Voilà. Et ça. Mais comme vous le dites, c'est parce qu'il y avait cette volonté entre la commune et l'association et les parents. Ça, c'est super. Hein. Ouais.
Ce qui est nécessaire de toute façon pour faire avancer les grands projets, de toute façon, il peut pas y avoir un fonctionnement des avancées dans l'accueil des enfants si l'école, la commune ne s'y implique pas, bien entendu. Une loi ne suffit pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sur justement ces accueils, il y a aussi, on a eu l'occasion de les recevoir, notamment le dispositif, le DAR, je ne sais plus exactement ce que c'est comme dispositif, mais c'est un dispositif qui a, sur l'école Jean Moulin notamment, à Évreux. Ça aussi, j'imagine que ça sert comme exemple pour d'autres structures, et peut-être même, de manière positive, de laboratoire d'idées.
Oui. Alors, le dispositif d'autorégulation,
voilà,
qui se met en place. Il y en a deux dans l'heure. Donc, le premier est à Jean Moulin Évreux, à l'école Jean Moulin, puis un deuxième qui a été créé il y a quelques mois à Bernay. C'est pour nous quelque chose de très très intéressant parce que c'est plus qu'une coopération, c'est le médico-social est dans l'éducation nationale, enfin dans l'école, voilà. Et donc il y a l'éducation nationale, le médico-social qui travaillent ensemble. Donc ça, c'est ce qui existe dans le dispositif d'autorégulation, mais qui doit se développer partout dans toutes les écoles où il y a des enfants en situation de handicap. S'il n'y a pas cette collaboration au quotidien entre le médico-social et l'éducation nationale, nous n'avancerons pas dans l'école pour tous avec les élèves en situation de handicap.
Sauf que les écoles qui potentiellement accueillent des enfants en situation de handicap, ce sont toutes les écoles.
Eh oui.
quand on dit, il faudrait que ce soit dans toutes les écoles. Finalement, quand on dit, il faut que ce soit dans les écoles qui reçoivent des élèves en situation de handicap, ce sont toutes les écoles finalement.
Oui. Toutes les écoles, toutes les écoles, de la République. Hein, c'est vraiment ça. C'est important. Donc, il y a d'autres dispositifs comme les équipes d'appui à la scolarité qui existent. Je prends pas les sigles parce que c'est.
Bon, on va pas s'en sortir.
Il y en a tellement. mais là. C'est une autre façon de travailler avec le médico-social, où le médico-social va dans l'école aider soit l'enfant, soit les enseignants dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Ça, c'est à développer. Et donc, le souci qu'on va rencontrer, il faut le dire, parce qu'il ne faut pas non plus être naïf, c'est les moyens. Les moyens pour le médico-social, comme les moyens pour l'éducation nationale.
Et ne serait-ce que sur l'accompagnement, enfin régulièrement, on entend parler, c'est dans les classes, il y a souvent pour accompagner des enfants en difficulté, et en particulier dans le cadre du handicap, les AESH,
AESH,
c'est du personnel accompagnant des enfants. On sait à quel point il est difficile, même quand la situation l'exigerait, d'avoir suffisamment d'heures. C'est une question d'heures toujours. On a eu l'occasion de rencontrer des parents qui disaient bah oui, mais il m'en faudrait tout le temps, mais j'ai que 5 heures par semaine ou j'ai quelques heures. Des AESH qui se coupe en plein d'élèves, en fait, qui accompagnent plusieurs élèves, là où des fois l'accompagnement devrait être individuel. C'est justement cette question de moyens qui est très directement pointée.
Alors, mais Oui, oui. Donc les AESH, on va dire que c'est un moyen de compensation, c'est une aide humaine hein, en plus. Effectivement, problème de statut, problème de conditions de travail, problème de salaire qui se pose. Et là, effectivement, il faut que ça avance pour qu'on reconnaisse ce que ces personnels apporte dans l'accompagnement de l'élève. Mais il y a aussi la formation des enseignants, parce que il faut que l'école soit accessible. Et elle ne l'est pas suffisamment, notamment dans l'enseignement. Il faut que les professeurs soient formés pour utiliser notamment du matériel pédagogique accessible. Mais il faut qu'il y ait de la recherche pédagogique, et il n'y a pas de recherche pédagogique là-dessus. Vraiment...
Oui, à la marge, oui.
Un film. Donc, parce que il y a besoin d'AESH... Peut-être aussi parce que l'enseignement n'est pas suffisamment accessible et adapté aux besoins et aux attentes des enfants. Voilà.
C'est ça, si l'école était totalement inclusive, finalement l'AESH n'aurait pas de place dans la classe.
Ou elle interviendrait différemment.
Différemment. L'occasion justement d'échanger là-dessus, d'en savoir beaucoup plus à l'occasion de ce colloque du 25 septembre, je le rappelle, mardi 25 septembre, pardon, oui. De 9h30 à 16h à peu
oui.
près, voilà, c'est tout le monde y est invité, bien entendu,
bien
à y participer, c'est à l'hôtel du département, et puis ce sera l'occasion d'en savoir un peu plus, justement, sur cette classe flexible, on l'évoquait il y a un instant, de Thuy de Loison, voilà, qui a travaillé différemment, l'occasion de revenir sur ce dispositif d'autorégulation, comme on le disait, le DAR, qui est existe à l'école Jean Moulin, mais aussi à Bernay depuis cette année, hein, c'est
oui,
ça,
oui,
si je ne dis pas de
année,
bêtises.
Oui, oui,
l'occasion, tout simplement, d'échanger autour de ces questions de l'inclusion et puis de l'école pour tous, tout simplement. C'est comment tout le monde accède à l'école. Quand on veut en savoir un peu plus, quand soit on est parent d'enfants en situation de handicap et qu'on aimerait bien... le mieux pour son enfant, finalement, est-ce qu'il y a possibilité de contacter une structure qui peut nous aider? Est-ce que on est obligé de passer par la direction de l'école uniquement? Comment ça fonctionne?
Alors, d'abord, il faut pas oublier la MDPH. Dès lors qu'il y a un enfant en situation de handicap, il y a MDPH, donc il y a un dossier, une demande à faire auprès de la MDPH pour que on mette en place notamment un projet personnalisé de scolarisation qui s'impose à l'école. Donc ça, c'est important. Mais il y a aussi l'école qui, le directeur d'école, hein, tout simplement la directrice d'école, qui doit pouvoir également, dès lors que les parents lui font état des difficultés, mettre en place ce qu'il faut. Et donc il y a ce qu'on appelle un inspecteur de l'éducation nationale qui est responsable de ce secteur hein, du handicap et qui doit trouver les moyens à mettre en place, hein, notamment le matériel pédagogique. Hein, voilà. Donc ça, ce sont des droits qui existent et qu'il faut faire appliquer. Et donc c'est pour ça que Éric Delemar, le défenseur des droits qui vient au colloque, qui est notre intervenant principal, va être là pour rappeler le droit et ses interventions et ce qu'il a pu obtenir justement nationalement, hein, puisque Éric Delemar, c'est défenseur des droits en France.
Voilà, donc du coup, pour répondre à la question, c'est les écoles, enfin les directeurs d'école, de collège ou de lycée d'ailleurs,
oui,
sont au point. L'MDPH est également au point pour vous aider, vous accompagner. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus ou tout simplement vous y intéresser, le colloque département, c'est mercredi 25, c'est de 9h30 à 16h, c'est ouvert à tous et à toutes. Voilà, vous pouvez participer aux échanges. Dans les échanges principaux, c'est autour des droits. Comment défendre les droits? C'est on le disait, c'est Éric Delemar qui est défenseur des droits des enfants notamment. Et puis l'occasion de revenir sur ces classes flexibles. Et puis une table ronde autour des dispositifs de l'éducation nationale. Un programme bien rempli et passionnant, en fait, tout simplement.
Et de la formation des enseignants.
Et de la formation des enseignants, exactement. Merci beaucoup, Michel.
Merci à vous.
Micart, d'avoir échangé avec nous ce matin. On en sait beaucoup plus maintenant sur ces questions d'accueil et puis de l'école inclusive et de l'école pour tous, tout simplement. Je rappelle, c'est le 25 septembre à l'hôtel du département. Et ben, il y a qu'à pousser la porte et on y sera. Pour nos auditeurs, restez à l'écoute de nos programmes. C'est pourquoi parce qu'ils sont cools.